L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 245e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. C'est la première de l'année et donc Pierre et moi, bonjour Pierre par ailleurs.
Bonjour Alexandre.
Nous vous souhaitons une très bonne, heureuse année 2023, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur
tout ça,
et
tout
plein
ça.
De bonnes choses.
Alors, là il y a une lampe qui marchait pas sur ma console, pardon.
Mais Pierre, je pense qu'on t'entendait bien. On t'entendait au retour en tout cas. Et on va commencer avec ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle sur le front de la vie privée, c'est que Meta, donc, qui est l'entreprise qui est maintenant chapeaute Facebook, Facebook, WhatsApp notamment, l'espèce de holding, si on peut dire, a écopé une amende de 390 millions de dollars. D'euros, qui lui a été infligé par l'équivalent irlandais de la CNIL, qui s'appelle donc la Data Protection Commission, suite à une plainte dont on avait parlé lors d'un précédent épisode.
On en a parlé à plusieurs reprises, c'est un des récurrents celui-là.
Noibi. Donc. Ça fait suite donc à l'entrée à l'application du RGPD et donc Noibi contestait le fait que le fait d'appuyer, de cliquer sur le bouton « J'accepte des conditions générales d'utilisation de Facebook » implique l'accord pour l'utilisation des données des utilisateurs pour s'en servir pour la publicité ciblée. Alors Pierre, tu as remis un jeton dans la machine puisque toi aussi tu suis l'actualité, ce qui est quand même nécessaire pour faire cette émission. Et l'ONG Noibi, en fait, malgré le montant qui peut paraître élevé de cette annonce,
qui est ridiculement faible en fait,
puisque l'entreprise Meta donc avait provisionné, donc ils avaient mis de côté, ils avaient prévu de dépenser 3 milliards de dollars en frais de justice,
en amende.
Et déjà le montant est assez faible et Noibi, l'ONG, considère que le délai qui a été donné à Meta pour se mettre en conformité est beaucoup trop long et que les CNIL, alors de différents pays, donc il y avait les CNIL irlandaises, françaises, si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir la liste quelque part, allemandes, je crois aussi, font preuve d'un peu trop de mansuétude en fait envers Meta.
Alors, particulièrement la CNIL irlandaise, c'est la pire, celle-là. Alors, en fait, et donc, pour citer le Noibi, il ressort de la décision de la DPC, donc la CNIL irlandaise, que les autorités autrichiennes, allemandes, françaises, italiennes, néerlandaises, norvégiennes, polonaises, portugaises et suédoises ont toutes soulevé des objections formelles contre la décision de la DPC. Or, traditionnellement, les autorités ne soulèvent pas d'objections formelles, c'est clair que la question a déjà été soulevée par un certain nombre d'autorités. Donc, en fait, les autres autorités ont tout dit, mais vous n'avez pas fait votre taf. Parce que Facebook étant basé dans un paradis fiscal, en Irlande, les autorités compétentes sont les autorités irlandaises, malheureusement. C'est pas les autorités françaises, allemandes et autres, c'est le principe de l'Union européenne, c'est qu'ils n'ont pas besoin de répondre auprès de tout le monde. Ils ont besoin de répondre uniquement auprès de la CNIL irlandaise, qui est extrêmement laxiste. Et il y a eu un parallèle qui a été fait.
Donc c'est à la fois un paradis fiscal, mais aussi un paradis juridique pour les entreprises qui se soucient peu de la vie privée de leurs utilisateurs.
Ah bah là, c'est un peu le cas, quoi. La CNIL là-bas, et c'est... ils rapportent du pognon, on va peut-être pas les embêter, quoi. Et l'ONG Noibi. En fait, ils considèrent que le travail qui a été fait par la DPC, c'est juste donc ce qu'on a fait, c'était pas bien comme premier projet de décision. Ok, donc vous voulez qu'on corrige ça, d'accord, on corrige. Et c'est tout. Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences aussi des corrections, ils n'ont pas réfléchi au montant qui n'a rien à voir avec l'infraction, puisque 390 millions d'euros, je sais plus combien il y a de millions d'utilisateurs de Facebook en Europe, mais par utilisateur, c'est que dalle.
Faire 1 euro par utilisateur.
Allez, un euro
voilà, et quelques. 1,50€, on va dire.
Voilà.
On va arrondir.
C'est rien. C'est rien du tout comme amende par rapport à tout l'argent qu'ils se font sur quelque chose qui est illégal, puisqu'ils n'ont pas l'accord des personnes pour exploiter les données. Mais ben, la CNIL irlandaise, ça les emmerde pas une seconde de faire ça. Donc Neubi va faire appel parce que ben, la DPC ne répond pas aux plaintes, à la plainte complètement, ça couvre pas toutes les questions, et aussi le montant de l'amende est clairement plus faible que le montant qui était demandé par la Cour européenne, la CEPD, c'est la...
Commission européenne
De protection des données, je crois, ouais. C'est dur les sujets comme ça.
Et on n'a pas fait du droit, c'est pour quelque chose. Hein.
Oui, c'est vrai. Aussi, ça joue. Donc, affaire à suivre. On va s'amuser encore avec cela. Ça va continuer encore très longtemps, celui-là.
Alors, dans la rubrique amende ou nette, c'est les 8 millions d'euros d'amende qui ont été infligés par la CNIL, donc l'autorité française, à Apple,
c'est de la grande poche.
Qui, jusqu'à la version 15 de l'iOS, utilisait un identifiant unique pour tracer l'utilisateur et donc pour vendre de la pub, mais sans en informer l'utilisateur. Avec une certaine hypocrisie, vous savez que Apple mettait en avant le fait qu'elle bloquait les applications, en tout cas les politiques des applications qui voulaient tracer la vie privée des utilisateurs pour leur vendre de la pub. Donc il y avait des conditions drastiques de la part d'Apple pour donner accès à ces identifiants, mais eux n'hésitaient pas en fait à s'en servir pour le monétiser. Donc bon, 8 millions d'euros d'amende pour Apple, en sachant que en 2022 le cash, hein, donc le cash d'Apple, c'est 179 milliards de dollars.
C'est de l'argent de poche.
Autant dire que
L'équivalent pour toi ou moi, c'est quelques euros, quoi. C'est même pas 10 euros.
C'est-à-dire que même prendre une prime de stationnement, ça nous coûterait plus cher.
Oui, voilà, oui, c'est donc rien. Voilà, c'est une amende, c'est pour le principe, ils ont tapé sur les doigts, mais voilà, je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin sur l'amende là-dessus pour l'absence de consentement que c'est, quoi.
Celle-là, j'ai pas compris pour que tu mettais en sécurité vie privée, mais
c'est plus sécurité que vie privée.
Google va autoriser donc le langage Rust pour le développement de Chrome et donc de son fork libre, Chromium.
C'est pas fork, mais oui, sa branche libre, on va dire. Oui. Chrome, c'est la version propriétaire de Chromium, finalement. Et donc oui, le navigateur, alors on a déjà parlé de Rust à plusieurs reprises, notamment depuis sa création par Mozilla, il faut rappeler. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, des ingénieurs chez Mozilla ont décidé de créer ce langage de programmation pour avoir un langage de programmation plus sûr pour le développement d'applications telles que les navigateurs web. Et donc Firefox, des morceaux de Firefox ont été réécrits en Rust pour améliorer la sécurité. Et c'est aussi le cas, du coup, on en a déjà parlé, je crois, l'émission précédente ou une juste avant. Ça a été le cas aussi sur Android. Il y a des morceaux qui ont commencé à être écrits en Rust parce que, justement, ça évite tout un ensemble de problèmes. Et là, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, maintenant, c'est Google qui autorise l'utilisation de Rust dans Chrome. Donc, c'est intéressant pour la sécurité, puisque ça veut dire c'est des problèmes qui pourront disparaître parce que... intrinsèquement, ce langage ne permet pas d'avoir un de ces soucis. Et là où je trouve ça assez amusant, c'est que finalement, c'est Google qui adopte un outil qui a été créé par la fondation Mozilla pour améliorer son navigateur. C'est là qu'on voit aussi quand même un peu l'intérêt de la concurrence entre les navigateurs. Si Mozilla n'avait pas été présent pour développer Firefox et du coup avoir besoin de développer Rust, qu'aurait fait Google aujourd'hui? Je sais pas s'ils auraient fait ce choix-là, puisque pour une entreprise lambda et pour une entreprise qui a un but fortement lucratif comme Google, ça n'a pas d'intérêt de se lancer dans ce genre d'énorme chantier. La création du langage n'aurait pas été intéressante pour eux. Donc, est-ce que ça aurait été créé? On peut se permettre d'en douter.
Et on voit donc l'utilité tout de même de la diversité technique.
Oui, que ce soit dans les navigateurs, en plus, c'est particulièrement important, puisque là, il y a des contraintes de sécurité.
C'est de plus en plus un des seuls logiciels utilisés par, je dirais, les personnes lambda.
Hélas.
On ne va pas refaire le débat ici.
Non, on ne va pas.
On revient aux amendes, tiens, et avec, de manière très étonnante, TikTok, donc l'application chinoise. Alors, je ne sais pas, alors toi, tu n'as pas... Android, donc t'as jamais essayé, personnellement. Mais je
on
pense
m'a montré,
que
mais
si
j'ai
je
pas
télécharge,
compris.
Je vais me retrouver comme quand j'ai téléchargé Snapchat. Je fais quoi avec ça? Je pense que ce serait à peu près la même chose. Donc, sanctionné donc, d'une amende de 5 millions d'euros, notamment pour mécanisme de dark pattern, en fait, Pierre, on peut appeler ça. Donc, la difficulté, en fait, à refuser les cookies qui sont non essentiels.
Dire de plus, c'est un classique, hein, le non-respect de la réglementation sur les cookies et sur la demande du consentement.
Parce que des fois, vous avez continué sans accepter en haut à gauche, mais très discret. Et encore, ça, c'est quand ça joue plutôt bien le jeu.
Ouais, celui-là, c'est encore ceux qui jouent bien le jeu.
Mais alors, des fois, en fait, t'es obligé d'aller dans les options pour refuser les cookies. Oui, tu dois les refuser un par un.
Oui.
Alors, les Belges, notamment, j'ai l'impression que la CNIL belge, elle est un petit peu moins attaquée. Les sites français, ça commence à être un peu mieux. Notamment certains sites, beaucoup maintenant, si tu refuses les cookies, si tu refuses les cookies, il faut s'abonner.
Après, il y a aussi eu un défaut sur le.
Alors, il existe le mode utilisation en mode privé, hein, qui permet. Vous ouvrez uniquement cette fenêtre-là en mode privé. Vous acceptez les cookies, et puis une fois que vous avez fermé votre session, les cookies sont effacés.
Après, il y a une autre blague aussi sur TikTok, c'est qu'il y a des cookies qui étaient déposés même en ayant refusé les cookies. Donc là,
c'est pas les seuls. On a déjà parlé de.
Ouais, mais là, c'était des cookies non techniques, en fait. Et c'était sans information, là, il y avait un vrai souci. C'est de la gestion de. Et sachant que c'était considéré comme étant de la gestion de publicité comportementale pour ces cookies. Donc là, c'est des cookies clairement non nécessaires.
Et on est clairement dans des cookies qui ont vocation à faire une atteinte à la vie privée.
Exactement.
Je propose que l'on parle Internet après un premier morceau de musique. Nous allons écouter The River, Stringsay Season. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était The River, Stingray Season. Vous écoutez les Codecs sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler de nouvelles Internet. Et une bonne nouvelle, c'est fin 2022, la sortie de la version 5 de Peertube. Peertube qui est une plateforme décentralisée de diffusion de vidéos. Alors, c'est un petit peu à la mode maintenant avec les problèmes qu'a eu Twitter et les démêlés avec son nouveau propriétaire, Elon Musk. Ça a fait pas mal de pub donc à Mastodon, qui est une plateforme décentralisée de microblogging, où différentes instances sont fédérées pour faire un réseau social. Et bah, Peertube, c'est un petit peu sur le même principe. C'est basé donc sur BitTorrent, donc un procédé de peer-to-peer, enfin c'est un protocole de peer-to-peer qui a été décrié il y a 15 ans lors de l'Adopi, de la DVC.
Tout le peer-to-peer a été décrié, pas que Torrent.
Oui, voilà, je parlais du peer-to-peer en général, okay. Pierre, comme étant une création visant à saper les fondements du droit d'auteur, mais c'est ça sert à la base quand même au partage. Donc vous pouvez aller sur peertube.fr. Alors tu vois, la page d'accueil, c'est moins pire que YouTube. Vous avez un peu de tout, vous avez alors des vidéos, vous avez un tuto sur SMN, donc un logiciel, enfin une application Android pour utiliser la navigation avec des cartes d'OpenStreetMap. Vous avez des vidéos de vacances perso, une audition de Gérald Darmanin publiée par la Quadrature du Net sur la vidéosurveillance. Alors, bon, il faut le dire, hein, dans la page d'accueil, vous avez quand même une vidéo qui m'a l'air un peu complotiste sur les bords. Puis si, regarde la deuxième ligne, la quatrième. J'ai un peu googlé le mec pour le coup,
c'est du compétitif. Ça a l'air.
C'est vous laisser publier tout le monde, forcément, vous savez un peu. Bon, vous avez tout et n'importe quoi, vous pouvez publier vous-même et vous n'êtes pas soumis à la censure. Vous n'êtes, et ce devrait être la norme, vous n'êtes soumis qu'à la loi française. En fait, voilà, vous êtes soumis aux lois concernant l'injure, la diffamation. Voilà, c'est normal. Droit d'auteur, la liberté d'expression, voilà, il y a la limite du respect de la personne et des opinions, mais rien de plus. Donc, c'est expliqué sur le site de Peertube, donc le site fédérateur, vous pouvez publier comment trouver une instance et vous pouvez également monter votre propre instance. Donc voilà, c'est un beau projet et on espère qu'il montera en puissance. On va parler beaucoup moins ouvert, donc Google qui confirme la fin du presque support donc du format JPEG XL dans le navigateur Chrome.
Tout à fait, et alors c'est technique, c'est un nouveau format de... Le JPEG est un vieux format d'image qui a ses défauts, qui sont connus, et du coup le JPEG XL est l'un des concurrents en lice pour remplacer, pour succéder au JPEG. Et jusqu'à maintenant, le JPEG XL était supporté alors par Google Chrome et par... par Google Chrome en expérimental, et par deux différents navigateurs web. Il me semble que Firefox le gère et quelques autres. Et là, Google a dit, nous, on l'enlève. Et ce que j'aime beaucoup... Alors, donc là c'est acté, c'est supprimé. Le code n'est plus là. Et à partir de la version 110 de Chrome, ce ne sera plus présent. Mais là où je trouve ça très intéressant, c'est la motivation. Enfin, l'explication de pourquoi on l'enlève. On l'enlève parce que, en fait, c'est un support expérimental. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui, il y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Il n'y a pas un gros écosystème autour de ça et il n'y a pas assez d'avantages à ce format-là. Alors, le troisième point, ça c'est sujet à débat, à discussion. Mais par contre, les deux premiers points, à partir du moment où le JPEG XL n'est pas supporté dans le navigateur le plus utilisé au monde aujourd'hui en part de marché, malheureusement, il était supporté, mais uniquement en mode expérimental, donc il fallait cocher une option pour l'activer, forcément, il n'y allait pas y avoir beaucoup de gens qui allaient s'en servir. C'est... En fait, on peut innover, mais il faut que ça marche avant que ça ne puisse être intégré. Je le saisis pas trop, là, pour l'instant, le concept. Et là où je trouve ça aussi assez hypocrite et dégueulasse, c'est que Google investit énormément dans des formats d'images alternatifs, des concurrents du JPEG XL, qui sont le WebP et le AVIF, qui sont développés par Google.
Oui, donc ils privilégient... Ils ont une image d'ouverture, mais ils privilégient quand même leur standard, parce que même s'il est ouvert, celui qui développe a quand même un temps d'avance sur son support.
C'est ça. C'est l'idée. Moi, je trouve ça assez dégueulasse et ça rappelle à quel point, c'est Google Chromium, donc n'est pas un navigateur vraiment libre, c'est un navigateur ouvert, on a le code source, mais c'est pas nous qui décident, c'est Google. C'est toujours bien de le rappeler, je trouve.
Alors, on va parler alternative à Google Maps. Une bonne chose, ça existe, c'est OpenStreetMap. Sauf que quand vous voyez les acteurs Amazon Web Services, donc AWS, Meta, donc propriétaire de Facebook, Microsoft ou encore l'éditeur de GPS TomTom, même s'il y a la présence de la fondation Linux, on peut douter quand même des intentions de ces personnes.
Alors, c'est ce sujet je ne sais pas trop encore quoi.
Alors qu'il y a une certaine concurrence, c'est plutôt ça. Alors,
Leur objectif est de lutter, et là-dessus, c'est quelque chose que ne fait pas OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une carte, mais c'est une carte au sens strict du terme, c'est de la donnée. OpenStreetMap est une base de données, ce n'est rien d'autre. Donc, comparer aujourd'hui Google Maps à OpenStreetMap, c'est une comparaison qui n'a pas grand sens.
La carte qui s'affiche quand vous allez sur le site d'OpenStreetMap.org, c'est qu'une représentation des données d'OpenStreetMap.
Voilà, mais
ce n'est pas le projet OpenStreetMap.
Voilà, c'est une représentation possible déjà. Contrairement à Google Maps, vous ne choisissez pas la représentation. Si demain, sur votre site web, mettons que vous gérez une entreprise, si demain, et que vous avez une carte Google Maps qui apparaît sur votre site, si demain Google décide de mettre en avant vos concurrents sur la carte de votre site, vous n'avez pas la main dessus. Petit rappel des blagues qui peuvent avoir lieu sur des cartes fermées. Et donc, OpenStreetMap, c'est une base de données, ce n'est rien d'autre. Donc, les Google Maps, il y a tout un ensemble de services. Il y a le calcul d'itinéraire, il y a la recherche d'adresse et la recherche inversée. Donc, à partir d'un point, trouver une adresse, à partir d'une adresse, trouver un point.
Ce qui n'est pas du ressort d'OpenStreetMap. OpenStreetMap fournit des données avec lesquelles vous pouvez utiliser pour faire de la recherche d'itinéraire, de la recherche également d'adresse.
Mais
vous pouvez sélectionner les données qui vous intéressent. C'est un des intérêts majeurs d'OpenStreetMap, c'est que vous voulez faire une carte des pistes cyclables, vous pouvez faire une carte des chemins de randonnée, puisqu'ils sont souvent renseignés dans OpenStreetMap, vous pouvez créer votre fond de carte en mettant en avant les informations qui vous intéressent.
Et donc là, l'objectif de ce projet, c'est de se baser sur les données d'OpenStreetMap, donc c'est pas une concurrence à OpenStreetMap, pour créer un ensemble d'API, d'outils, qui viendront concurrencer les outils de Google Maps. Donc c'est pas concurrent d'OpenStreetMap. Après, ce qui m'inquiète, c'est comment ils vont mettre en avant le fait que ça soit basé sur OpenStreetMap et comment ils vont mettre en avant le fait de reverser les données à OpenStreetMap. Ça c'est ce qui m'intrigue. Mais voilà, leur objectif, ils le disent, c'est d'intégrer des données de cartes ouvertes, que ce soit d'OpenStreetMap ou d'autres entités administratives, et d'y ajouter d'autres données, d'autres éléments pour faire un package plus complet qui lui concurrence Google Maps. Donc, c'est à suivre. Pour l'instant, c'est juste une annonce de projet. Il n'y a rien de visible. Si vous allez sur overturemaps.org, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est des groupes de travail, c'est quelques éléments, mais il n'y a rien pour l'instant qui est sorti de tout ça. Donc ça, c'est à suivre. Mais voilà, l'annonce du projet, ça dépend vraiment dans quelle direction ça va partir.
On va continuer avec les données libres, avec deux exemples. Dans un premier temps, le CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique Français, veut encourager donc ces scientifiques, donc je dirais la plupart des scientifiques universitaires de France, à publier leurs articles sous la licence Creative Commons by, c'est-à-dire la Creative Commons, je dirais la moins restrictive, la qui en fait oblige juste à donner l'attribution, donc à citer l'auteur originel de l'article. Donc, et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est sans d'ailleurs le share alike, c'est-à-dire sans obliger à redistribuer sous les mêmes termes.
Bah, pour le travail dérivé, quand tu te bases sur une recherche initiale, ça peut peut-être être important de ne pas être en share alike justement. Je sais pas. Là-dessus, je sais pas pourquoi ils l'ont choisi. Hein.
On sait que les politiques publiques entre le libre, c'est un peu je t'aime moi non plus. C'est oui, alors c'est bien, mais faut pas non plus entraver les bénéfices des grands groupes. Et enfin, voilà, il y a eu des belles réussites comme la gendarmerie qui a migré au logiciel libre, des projets pour les collectivités locales, notamment avec une base de données de logiciels libres utilisables donc par les mairies, par les conseils régionaux, les hôpitaux aussi qui ont mutualisé des besoins et des fois un certain mépris envers le logiciel libre. En tout cas là, bon, sachant scientifique, c'est quand même des gens qui connaissent les enjeux de la diffusion du savoir, donc on ne peut que se féliciter de ce travail. Notamment, ça peut nourrir Wikipédia.
Tout c'est à
une
fait.
Très bonne base de source pour Wikipédia, parce que je rappelle que tout article de Wikipédia doit être sourcé. Et on va maintenant généraliser avec l'Europe, et donc la Commission européenne veut approfondir l'obligation qu'ont donc les agences gouvernementales à partager leurs données librement. Ça va concerner surtout les données météorologiques. On sait qu'il y a une différence d'approche entre l'Europe notamment et la France et les États-Unis. En France, on a un modèle hybride, c'est public, mais du coup, le public il doit pouvoir vendre. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, c'est un domaine où c'est plutôt qu'on est OpenStreetMap avec pas mal de soucis relationnels avec l'ING, l'Institut Géographique National, parce que c'est un service public, mais ils vendent leurs cartes. Alors qu'aux États-Unis, si c'est le public n'a rien à faire dans le business, mais si c'est public, c'est public.
Si c'est payé par l'argent public, c'est public.
Si c'est payé par l'argent public, c'est public. C'est pour ça que les modèles météorologiques américains sont depuis très longtemps disponibles. C'est pour ça que les météorologues amateurs utilisaient des modèles américains.
Les plans des avions de militaires américains sont publics, du coup ?
Alors, il y a une notion qui s'appelle le secret défense, son équivalent américain. C'est sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité du pays. Bon, on peut l'expliquer quand même. Hein. C'est pas...
Mais
T'as envie que les Russes connaissent les plans des avions américains ? Pas moi, hein, personnellement. Donc, c'est encore une nouvelle. Donc, c'est un règlement d'exécution. Alors, je laisserai. J'ai pas eu le temps en fait, d'étudier le droit européen pour la différence entre une directive, un règlement d'exécution ou un règlement européen. On vous laissera chercher un petit peu et vous renseigner. Bon, c'est ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est à nous de le faire. Donc une bonne nouvelle. Donc ça parle surtout donc de données aussi géographiques, donc météorologiques, géographiques, donc plutôt des données physiques. Je propose que l'on clôture là-dessus la séquence internet vie privée et que l'on écoute un second morceau de musique. Nous allons donc écouter Laurence Danova, This Island. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
There's an island in my mind I visit when I'm low, where there's peace from all the pain the world's come to know. Where I lay on sandy beaches, thoughts like water flow, and the sun touching the horizon, there's an afterglow. This island in my mind protects me from solo. Its gods are up and waiting out and out the world. Beyond the blood-red sky, people is sick and sore. Paradise lost within reach of my sheltered shores. On a killing. Religion is so say. And I wonder if my island needs God anyway. Trying to be blissfully unaware of its lies. It ain't real unless I see it with my own two eyes. Still I pray for all the hurting in their own confines. Feeling privileged yet powerless on the safe side. Staring at the stars that find us in the black night sky. Wishing for a new reality where we're less blind. Island in my mind, guess I'm a bit naive. Generalizing all this pain and dead in my daydreams. Yeah, yeah, oh.
C'était Laurent Zanova, Vice Island. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. C'est la troisième et dernière partie des actualités. Et on va parler de logiciels, et bien évidemment, en grande partie, logiciels libres. Et on va commencer avec un célèbre chez les libristes, pas forcément le plus connu des grands publics, c'est XFCE qui est un environnement de bureau à vocation plutôt légère, donc sur des configurations dire peu puissantes, sur des PC assez anciens, c'est assez populaire. Ça faisait 2 ans qu'il n'y a pas eu de mise à jour, donc bon, c'est quand même quelque chose de significatif. Mise à jour du gestionnaire de fichiers Tunar, meilleure compatibilité, meilleur support de Wayland. Au niveau interface, ça ressemble plutôt à du GNOME 2. On dirait maté maintenant. Donc c'est plutôt sobre, c'est basé sur. Ça a l'air d'être basé sur GTK en tout cas.
Oui, ils sont toujours basés sur eux.
Vu la tête que ça, c'est basé sur GTK. Donc c'est une bonne alternative entre. Il y a Cinnamon également. Si vous voulez quelque chose d'alternatif entre KDE et GNOME, c'est vrai que GNOME, philosophie assez particulière. KDE, c'est assez. C'est complet, c'est fouillis. Oui.
Essaye les versions récentes, hein, même avant de répéter ça.
C'est vrai. Ouais, j'avoue que. Ok. Bon, bah écoute, je ferai plaisir à Pierre pour la prochaine fois. J'essaierai. Alors, je ne vais pas installer deux en même temps parce que si on commence avec deux environnements de bureau, on se retrouve avec 15 000.
Beaucoup de doublons, ouais.
Ouais, 15 000 applications. Ok, bon, écoute, je te ferai plaisir.
Il y a des machines virtuelles qui existent.
En tout cas. On vous invite à essayer si vous voulez un environnement plutôt sobre.
Voilà, c'est sobre, c'est un peu moins gourmand quand même que les GNOME et KDE.
Bon, et on est plutôt quelque chose quand même accessible à un public non initié. Par contre, si vous êtes un petit peu plus aventureux et que vous êtes de plus nostalgique des systèmes d'exploitation alternatifs des années 90, vous pouvez essayer Haiku, qui est sorti en version R1 bêta 4. Et Pierre aime beaucoup Haiku.
Ah oui, c'est mon chat.
Qui est un clone.
C'est quoi ce nouveau mot?
Un clone. C'est pas un clone d'Ognome d'ailleurs. C'est un clone de BOS, qui est un système qui était promis à un grand avenir professionnel au mi-temps des années 90.
Et, avant de se faire détruire par Microsoft.
Voilà.
Par le coup. Méchamment. Voilà.
Pierre, je te laisse expliquer un petit peu.
J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. De toute façon, l'histoire de BIOS, elle est très triste. Hein, à l'occasion. Ah, peut-être qu'à l'occasion, il faudrait faire une dégeekalisation vraiment pour approfondir le sujet. Mais grosso modo, BIOS, c'était... lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé à entrer en discussion avec des vendeurs de PC pour être préinstallés. Et les vendeurs de PC en question ont reçu un coup de fil de leur commerciaux Microsoft qui leur dit... Ah, c'est marrant, au moment où vous avez commencé à faire ces négociations-là, le prix de la licence Windows pour vous, il a augmenté de 100%. C'est magique, hein.
Il n'y aurait pas de l'abus de position dominante.
Pas du tout. Donc, l'histoire de BIOS s'est arrêtée malheureusement très très vite. Et BIOS n'a même pas pu être libéré derrière, donc Haiku est une réimplémentation de BIOS. Il y a zéro ligne de code de BIOS dans Haiku. Et donc, ils n'ont toujours pas sorti la première version stable. Ils ont beaucoup d'ambition pour leur version stable parce que les versions de test qu'on a déjà actuellement sont quand même largement utilisables et assez complètes. Donc là, la bêta 4 est sortie. Donc, elle est sortie fin décembre. Elle est sortie le 23 décembre. J'ai plus souvenir de quand était sortie la bêta 3. Je vais essayer de le retrouver. Elle était sortie en juillet 2021. Ça commence à dater. Et donc, dans les nouveautés, ce que je trouve intéressant à dire, alors il y a plein d'améliorations un peu partout, il y a une nouvelle sélection de pilotes réseau qui a été ajoutée, donc ça peut être pas mal pour les PC portables avec des puces Wi-Fi à la con, parce que là c'est supporté. Il y a un nouveau pilote pour le NTFS, donc si vous devez lire des fichiers, des disques Windows, c'est pas mal. Là où c'est plus intéressant par contre, c'est qu'ils ont introduit, alors c'est pas encore complet, c'est en cours de développement encore pour la partie. Il y a une partie qui est encore en cours de développement, c'est qu'ils ont introduit la possibilité d'utiliser Wine, donc pour lancer des applications Windows sous Haiku, de la même façon qu'on peut lancer certaines applications Windows sous Linux, donc ça c'est extrêmement pratique. Et ils ont aussi introduit la possibilité de faire fonctionner, alors en les recompilant, mais vu que la plupart sont des applications libres, il n'y a pas de problème, faire fonctionner des applications utilisant X11 Wayland sous Haiku.
D'être compatible en fait avec toutes les applications Linux.
Avec un large panel d'applications Linux, voilà. Et ça, c'est une excellente nouvelle puisque ça permet de lancer.
De base, en fait, voilà, c'est que tu as un système d'exploitation. Tu peux utiliser, je suppose, c'est compatible avec les applications BIOS. Je suppose qu'elles ont été nombreuses.
Ouais, elles ont été il y a longtemps surtout.
Peut-être, oui, elles ont peut-être pour des marchés de niche.
Elles commencent à prendre de l'âge. En multimédia, c'était très fort. Donc,
c'est très fort, mais c'est aussi très vieux.
Bah oui, mais il y a encore des trucs qui n'ont pas eu d'équivalent, je crois, vraiment.
Oui,
il y a des outils de gestion de son qui ont vraiment été très poussés sous BIOS. Après, je manipule pas.
Est-ce que le projet Haiku, il développe l'OS, mais il développe aussi des applications avec?
Ils sont 10 maximum, ouais, je crois, donc ils vont pas faire. Il faut pas trop leur demander non plus. Donc justement, oui, la compatibilité est indispensable. Alors jusqu'à maintenant, ils ont maintenu la compatibilité avec les applications BIOS. Ça va pas durer éternellement non plus. Hein. Faut pas croire. De toute façon, les BIOS c'était des applications 32 bits. Au bout d'un moment, ça. Va falloir arrêter, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment essayer, ça coûte pas grand chose d'essayer. Il y a un mode en live USB, ça s'essaye aussi en machine virtuelle, c'est pas très compliqué, il y a des bonnes explications en ligne.
On essaye même la machine virtuelle dans un premier temps, quand même.
Oui, c'est plus sage. Mais vraiment, si vous voulez, c'est un retour des années 90, mais c'est agréable à utiliser, c'est hyper rapide et fluide. Sans déconner, quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai une vieille machine, je sais pas ce que je peux faire pour continuer à m'en servir », moi je mets Haiku dessus. Les navigateurs web fonctionnent, mais des sites web sont tellement lourds aujourd'hui, ça reste compliqué, hein, faut mettre un bloqueur de pub au minimum. Mais la machine peut être utilisable pour faire de la bureautique, pour faire plein de trucs, et c'est vraiment fluide. C'est assez agréable.
Tu mets quoi comme navigateur ?
Alors, il y a le choix, puisque maintenant il y a Web Positive. Je me demande s'ils ne vont pas bientôt pouvoir refaire marcher Firefox. Il y a Epiphany qui marche du coup maintenant. Donc il y a tout un ensemble de
ces applications, ces navigateurs écrits pour Linux du coup.
Alors WebPositive est un navigateur écrit pour Haiku.
Ils ont quand même développé.
Alors c'est pas le moteur de rendu, c'est du WebKit hein, derrière. Faut pas déconner.
Oui.
Hein, c'est pas des surhommes non plus. On parlera de surhommes une prochaine fois, tiens d'ailleurs.
Et avec une version moderne de WebKit, donc.
Ah ouais, ça marche plutôt bien. Il y a des sites avec DRM, je crois que ça passe pas trop, hein, étonnamment. Mais
ça embarque les versions, dernières versions de SSL, TLS et.
Ouais, il y a tout ce qu'il faut.
Ok.
Non, franchement, je l'ai déjà utilisé un petit peu pour me marrer. Moi, il manque un ou deux trucs et j'installe sur mon PC Pro, hein, faut pas croire. Et je suis en train de voir ce que ça me prendrait de développer
toi,
les trucs qui manquent.
T'as une certaine liberté, ça, surtout.
Oui, j'ai une grosse liberté.
Aïe, Pierre, la boucle est bouclée. Intel utilise DXVK dans son pilote Windows.
Oui, celle-là, elle m'a fait bien marrer comme actualité. Donc, DXVK, c'est DirectX Vulkan, en fait, pour vraiment faire très vite. DirectX, enfin là, Direct3D en particulier, c'est les API pour faire de la 3D sous Windows. Vulkan est une API ouverte pour faire de la 3D, alors c'est surtout utilisé sous Linux, puisqu'il y a des concurrents, que ce soit sous Windows ou sous macOS. Et Intel a décidé d'utiliser DXVK, donc qui permet de faire fonctionner les applications Direct3D en convertissant les appels en Vulkan. Ils ont choisi d'intégrer ça dans leur pilote Windows plutôt que de redévelopper tout le nécessaire pour être compatible avec Direct3D. Et donc la boucle est bouclée, un projet qui a été conçu à la base pour faire tourner des applications Direct3D sous Linux va servir à faire est intégré dans un pilote pour Windows. Je trouve ça fantastique.
Qui a dit que Linux n'était pas fait pour le jeu vidéo,
c'est, hein, c'est l'économie circulaire, je sais pas. Je trouve ça très drôle.
Et maintenant, les jeux en High Dynamic Range vont pouvoir être utilisés sous Linux grâce à Valve.
Oui, alors je l'ai mise parce que c'est pour montrer que oui, on peut jouer sous Linux, mais personnellement, je sais pas du tout. Moi, je joue tellement peu que. Ben moi, le dernier jeu que j'ai lancé, c'est un jeu DOS, quoi. Donc.
Oui, mais toi, tu es très porté. Moi aussi, sur le rétro gaming, d'ailleurs.
Mais voilà, donc c'est le HDR, je crois, sous DOS, ça n'existait pas. Non, le principe du HDR, c'est d'avoir des profondeurs de couleurs, on va dire, dynamiques selon les différentes scènes, ce qui permet d'avoir un meilleur rendu quand il y a de forts contrastes. Je peux me faire tuer par tous les photographes, là, je pense. Mais c'est pas grave, ils sont pas là. Et du coup, le HDR dans les jeux vidéo, ben, ça a quand même amélioré pas mal la qualité d'image pour les jeux qui en profitent. Alors, on parle de jeux de gros studios. Et donc, Valve, l'éditeur de Steam, qui contribue énormément au développement du jeu sous Linux, Valve a financé tout le nécessaire avec ses développeurs pour avoir le HDR qui commence à être utilisable sous Linux. Ce qui est une grande avancée parce que ça impliquait quand même beaucoup de changements un peu partout. Donc, merci Valve pour le coup.
Et merci Pierre pour cette nouvelle. On se retrouve pour une dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Fresh Body Shop, Missing with the Ugly Army. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était donc Fresh Body Shop Missing with the Ugly Army, un court morceau comme vous avez pu l'entendre. C'est donc l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Aujourd'hui, Pierre va nous narrer ses aventures avec son téléphone compatible Android. Il a l'air content ou pas?
Oui, alors l'épisode précédent, j'étais sur le PinePhone, mais en fait le modem du PinePhone est quand même franchement pourri, j'ai pas d'autres mots, en tout cas le mien il déconne vraiment trop, donc j'ai, pour être un peu plus joignable, j'ai choisi de changer de téléphone, hein. Et donc là j'ai pris un téléphone vendu à la base sous Android, sur lequel j'ai installé un autre OS, parce que non, je n'arrive pas à utiliser Android, le peu de temps que j'ai passé avec Android sur le téléphone, j'ai eu envie de fracasser le machin parce que je ne comprends strictement rien à cette interface. Voilà, c'est sûr. Moi, à chaque fois qu'on me demande de décrocher sur un téléphone Android, je coupe la chic ou je passe 10 secondes à essayer de comprendre l'écran, ce qui m'indique quels sont les boutons, quels sont les trucs à glisser. Bref. Et donc là, j'ai un téléphone maintenant qui tourne sous Sailfish OS. Donc Sailfish OS qui est semi-libre, malheureusement. Donc c'est un dérivé des vieux projets du fin fond des années 2010 et encore plutôt fin des années 2000, les dérivés de Migo, de Maemo, donc de l'époque de Nokia, donc l'époque du N950, du N9 et du N900. C'est vraiment vieux. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ce téléphone, c'est que, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est cool, ça va me servir quand même. C'est, là, j'ai la possibilité sur Sailfish OS de lancer des applications Android. Et des applications Android imposées, il y en a quand même pas mal. Que ce soit des applications de banque ou des applications pour divers appareils, donc des véhicules ou autres, ou si vous voulez communiquer avec ce machin Bluetooth, vous devez installer l'application. Donc je me suis dit, c'est cool. Parce que au final, ça me permettra de lancer des applications. Et je m'étais jamais rendu compte, puisque comme je n'utilise pas Android, je m'étais jamais rendu compte à quel point Android est un système complètement fermé aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est
mais, en fait,
tu peux quand même utiliser Frandroid pour avoir quelques logiciels alternatifs au Play officiel de Google.
Voilà, mais aujourd'hui, en fait, les applications Android, c'est un dire que ici prenez notre application Android, c'est un mensonge. Les applications, la notion d'application Android en tant que telle, elle est complètement bidon puisque il va y avoir 99% des applications Android qui vont être en fait des applications Google Play et 1% qui vont être peut-être des applications Android. Et ça, je trouve que c'est quand même une putain d'arnaque. Et d'ailleurs, par rapport au RGPD, je me pose aussi de grandes questions sur le respect du RGPD par ce genre de truc. Parce que donc aujourd'hui, là, j'ai voulu lancer alors les applications que j'ai essayées. J'ai essayé l'application de gestion de ma moto pour voir l'état de la batterie, mettre à jour le firmware. Donc perdu, il faut avoir les Google Play machin truc. J'ai essayé l'application d'une banque, pareil, il fallait les Google Play machin. Je sais plus quelle autre application j'ai essayé aussi. Et là aussi, je me suis fait bloquer parce que j'ai pas le Google Play service. Alors il y a des hacks qui existent, il y a des alternatives, MicroG notamment. J'ai pas réussi à le faire fonctionner jusqu'à maintenant, ou en tout cas pas de manière satisfaisante pour bluffer complètement les applications. Mais là où moi je me pose aussi beaucoup de questions, dis donc, les applications, donc là, à aucun moment elles disent vos données on les file à Google, puisqu'ils dépendent des Google Play Services. Donc à quel moment est-ce que vous avez donné votre consentement pour que l'application lambda, là, ici, envoie ses données à Google? Moi, personnellement, là, quand je lance les trucs sur mon téléphone, à aucun moment, je ne dis « Ok, l'application a le droit d'envoyer plein de trucs à Google. »
Oui, alors que vous avez quand même plusieurs demandes d'autorisation, mais pas celui-là. Ça, c'est par défaut.
Oui, mais non, il y a un problème. L'application a le droit de mentionner, mais uniquement en passant par Google. C'est pas mal comme truc. Ça commence à poser des gros soucis, là. Donc, Android... On continue de mettre en avant le fait que oui, Android, c'est un système d'exploitation ouvert, voire certains qui disent c'est un système libre. Alors, AOSP est la base libre d'Android, oui. Enfin, libre, moi je préfère dire ouvert quand c'est comme ça, parce que clairement ce n'est pas libre, c'est libre pour Google, mais personne d'autre que Google ne peut faire de vrais changements, donc pour moi ce n'est pas libre, c'est un projet ouvert uniquement. Et derrière, en fait... Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, vous n'aurez pas un vrai système complet. Vous allez devoir prendre des morceaux de libre additionnel pour boucher tous les trous et vous n'aurez dans tous les cas jamais accès à l'écosystème Android complet. Et là, moi, je comprends plus finalement la logique. Tout le monde a besoin d'un système fermé appartenant à Google. Et c'est moi en fait, ça, moi j'espérais pour le coup, j'étais naïf peut-être. Je me disais ben une application basique comme ben, afficher l'état de la batterie et mettre à jour le firmware d'une batterie. Pourquoi ça devrait dépendre de Google ? C'est bon ça. Et d'ailleurs, l'application se lance et c'est uniquement après, quand on essaye de la connecter au périphérique, et là, ça dit « Ah non, et il faut les services Google. » Je ne comprends pas la logique. Alors, j'en ai parlé avec un pote qui a l'immense plaisir de développer des applications Android, notamment, et qui me dit que, ben oui, mais en fait, en plus, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de développer des applications Android sans dépendre des services Google Play, parce que Google choisit volontairement de déporter un maximum de fonctionnalités dans les Play Services. Et donc, une application qui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, aurait pu fonctionner uniquement sur la base de les API Android, maintenant, il faut qu'elle utilise les API Google en plus, obligatoirement.
Je suppose que ça apporte plus de simplicité pour les développeurs, donc les entreprises qui éditent des applications Android, de leur côté, elles y voient plutôt du BNF.
Oui, mais...
Tu as besoin de moins de compétences pour développer l'appli.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Moi, en fait, aujourd'hui, finalement, et d'ailleurs, ça me fait marrer de penser aux efforts de... Enfin, moi, ça me fait revoir l'importance, finalement, de projets comme Waydroid, et aussi les projets de Microsoft, notamment de compatibilité avec les applications Android. Parce que Microsoft l'a beaucoup mis en avant sur... C'est sorti avec Windows 11, je crois. Ils ont mis en avant le fait que, un peu grâce au projet Windows Subsystem for Linux, ils ont la possibilité de lancer un noyau Linux complet dans une mini-machine virtuelle qui se masque bien. Et du coup, derrière, ils ont la possibilité de lancer des applications Android. Waydroid, c'est la même chose, c'est la possibilité de lancer sur un bureau de Linux des applications Android. Bah oui, mais au final, vous voulez lancer quoi comme application ? Parce que moi, je me disais, c'est génial.
Ça a l'air d'une bonne idée sur le papier, mais autant avec Wide, on peut lancer de manière autonome une application Windows, autant, en fait, c'est limite plus fermé au final.
C'est beaucoup plus fermé. Moi, je trouve qu'une application Android, aujourd'hui, je trouve ça infiniment plus fermé qu'une application Windows. Tout à fait.
C'était l'argument d'Android au début par rapport à Apple qui t'obligeait à passer par le store. Au final,
c'est pire que passer par le store.
Plus en plus enfermatif, si vous me permettez le barbarisme, plus en plus privateur.
C'est ça, et c'est une transition. Alors, n'étant pas utilisateur d'Android, moi je l'ai pas vu. Je sais pas quand est-ce qu'elle a vraiment commencé cette transition.
Après, utilisateur d'Android, t'avais l'habitude d'utiliser le Play Store, donc au final.
Un utilisateur d'Android ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. C'est vrai. Mais moi, ça me choque. Quoi. Je comprends pas déjà comment on en est arrivé là. Et aujourd'hui, du coup, finalement... Alors, c'était déjà le cas. Les téléphones, on savait que les téléphones portables de tout le monde étaient des boîtes noires. C'était fermé. C'est fermé à la fois au niveau du système d'exploitation, des applications et du firmware, du modem. Mais il y avait quand même la lueur d'espoir que oui, mais c'est un système qui est basé sur une vraie base ouverte et tout. Au final, ça fait pire. C'est pire que Windows, oui.
À tel point d'ailleurs que Apple s'est quand même longtemps targué d'être meilleur au niveau de la vie privée.
Android, c'est encore pire que ce que je pensais en termes de vie privée, puisque les applications dépendent de Google sans le dire. Il n'y a pas de problème. Et dans les traces des applications, parce que du coup, moi, j'ai pris les applications en question et j'ai commencé à essayer de les assembler pour comprendre... qu'est-ce qu'elle fait cette application pour réimplémenter de mon côté, vu qu'a priori j'aurais pas le droit de l'utiliser. Et je tombe sur des morceaux où ça utilise Firebase notamment, qui semble bien implanté dans le monde Android. As-tu déjà entendu ce nom ?
Non.
T'as jamais autorisé une application à communiquer avec Firebase ?
En tout cas, moi, j'ai jamais coché d'option dans.
Il s'agit de bases de données hébergées chez Google. Et donc les applications Android sont très fréquentes à communiquer directement avec la plateforme de Google pour envoyer des données. Donc les données sont stockées chez Google. Google, évidemment, n'a jamais accès aux données, c'est bien connu. Google ne regarde pas ce qu'ils hébergent. Promis, voilà, je te jure, on n'y touche pas. Et bon, vous y croyez si vous voulez, hein. Moi j'y crois pas une seconde. Et donc les applications, est-ce que, Alexandre, est-ce que les applications te demandent avant d'envoyer les données chez Google ?
Non.
Non, c'est étonnant, hein. Moi non plus, moi les applications ne m'ont pas demandé. Donc on a un vrai gros souci là-dessus et tout le monde s'en fout. C'est là-dessus, je trouve que le RGPD n'est pas... Le RGPD avait, par rapport à Android, il y a un vrai sujet. J'ai pas souvenir que cet angle-là ait été considéré jusqu'à maintenant. Et pour moi, il y a un petit souci là. Est-ce que il faudrait que toutes les applications Android soient attaquées individuellement ? Ou est-ce que c'est pas Google qui pose problème ?
Ouais, mais Google va se défausser sur...
les éditeurs.
En disant que tant que... l'utilisation des services Android n'est pas obligatoire, tu peux quand même faire une application sans, même si... ils diront que c'est techniquement possible.
Donc, ouais, c'est techniquement possible, mais à quel point ça va devenir aussi de l'abus de position dominante ?
Oui,
il y a un gros sujet, mais c'est
fini avec Google et les abus de position dominante. En tout cas, merci Pierre pour cet éclairage. C'était le 245e
je suis dépité quand même.
Numéro de l'écho des Gnous. C'est le premier de l'année et on vous renouvelle nos voeux de bonheur, de santé, de tout le reste pour cette année. On se quitte en musique.
Attends, l'agenda.
Il y a un agenda, Pierre.
Ben ouais, quand même. Dans 3 semaines, c'est le FOSDEM,
c'est
mec.
C'est vrai, on l'avait oublié. En présentiel, cette fois-ci.
En présentiel.
Alors, et puis l'habitude, on l'avait oublié. On peut dire qu'on avait fait le deuil, mais...
Et si je peux...
Pas de spécial FOSDEM, de retour au FOSDEM, puisque... Bah, c'est
ce sera pas notre semaine. Par contre, je peux faire un coup de gueule.
Je
suis vraiment dégoûté. Il y a des gens que je voulais aller voir au FOSDEM et cette année, pour la première fois, ils n'auront pas de stand parce que l'organisation du FOSDEM leur a dit non, on ne vous donne pas de stand. Et je trouve ça assez inquiétant. Il s'agit du projet Haïku. Et en fait, si j'ai regardé un petit peu la liste des stands des gens qui sont présents. En truc lié au bureau Linux, il reste quasiment plus personne. Il reste LibreOffice, GNOME, KDE, Rideau.
D'accord, même pas Firefox.
Si, il y a Mozilla. Il y a Mozilla et Videolan, mais eux sont extra Linux.
Oui, c'est pas pure Linux, oui.
Il y a quelques années, au FOSDEM, il y avait encore une salle dédiée à GNUSTEP. GNUSTEP, c'est à l'époque.
Pourtant, il y a des gens qui sont volontaires pour y aller. L'organisation. Bon.
Ça m'écœure. Bref.
Si nous aussi, là, qui écoutent les coups des gnous, écoutez qu'ils écoutent au moins ce coup de gueule, Pierre. Merci. On se retrouve dans 2 semaines en différé, puisque Pierre ne sera pas disponible, donc on enregistrera. Donc ce sera le dimanche 29 janvier de 19h à 20h sur Radio Campus, comme d'habitude. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. Bonne fin de week-end. Au revoir à tous.
Bye bye.
Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.